Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Que des bonnes nouvelles ces derniers jours pour Bruno Le Maire. La dernière en date, le baromètre EY, publié aujourd'hui, qui confirme la première place en termes d'attractivité pour la France depuis 5 ans. On compte en nombre de projets d'implantation, investissement direct étranger sur le sol français. C'est ça le baromètre EY, mais ça s'ajoute au PIB meilleur que prévu, à l'inflation qui ralentit ou encore à l'absence de sanctions de la part des agences de notation. Bruno Le Maire toujours était il y a quelques instants chez nos amis de BFM TV. Il ne souhaite pas que le projet de cotation de Total Energy à Wall Street ait lieu. Il l'a dit très clairement. On ouvrira le baromètre Odoxa à JP Challenge BFM Business comme tous les premiers jeudis du mois. Il est consacré ce mois-ci à la manière dont nous, dont vous percevez l'inflation. Et puis c'est une information des Échos. Bercy prépare un nouvel arsenal antifraude pour l'automne. Alors, au-delà de la fraude fiscale et sociale classique, la nouveauté est que Thomas Cazenave veut s'attaquer aux fraudes sur les aides publiques, comme MaPrimeRénov', les subventions à l'apprentissage ou encore les certificats d'économie d'énergie. Bonjour Gaëlle Mac.
Bonjour.
Bienvenue, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une du numéro de cette semaine. Les grands escrocs, comment ils ont exploité le capitalisme. Alors, on voit Monsieur Bankman, c'était FTX dans les cryptos, Bernard Madoff, Ponzi, l'ineffable Ponzi, Stavisky. Gaël Slimane, bonjour.
Bonjour.
Président d'Odoxa, donc pour le sondage avec AJP. Philippe Trénard, bonjour Philippe.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes partenaires de cette émission chaque jeudi. Un petit mot sur les rencontres d'Aix-en-Provence qui ne cessent d'approcher.
Oui, qui ne cessent d'approcher avec
des thèmes. Ce sera les 5 et 6 juillet prochains.
Les 5 et 6 juillet prochains, je crois que c'est un événement important pour les économistes français et on voit plusieurs thèmes qui émergent. Alors le premier thème d'une enquête que nous avons faite auprès des jeunes qui montre beaucoup d'attentes des jeunes mais aussi beaucoup d'inquiétudes des jeunes et je pense que pour l'avenir de la France c'est important. Et un deuxième thème que nous souhaiterons développer c'est que dans les grandes turbulences de la géostratégie mondiale, il ne faut pas oublier la coopération avec le Sud et avec l'Afrique. C'est un point très important et que nous développerons aussi aux journées d'Aix.
C'est intéressant de suivre l'évolution globale de la perception des choses par la jeunesse.
Absolument.
Il y a eu un baromètre BPCE qui a été publié. 1 sur 3 épargne entre 18 et 24 ans. 1 sur 3 épargne pour ses vieux jours. Je sais pas, vous avez épargné pour vos vieux jours à 22 balais, Gaël ?
Moi non, mais à longueur,
même pas à la retraite.
À longueur de sondage éco ou de baromètre, on a un baromètre sur la retraite avec Groupama où on voit qu'on a des jeunes qui se préoccupent de la retraite. Imaginez, il y a 30 ans, la jeunesse n'en avait rien à faire. Elle n'imaginait pas un instant son problème de retraite.
D'ailleurs, hier, dans les manifestations, le thème de la réforme des retraites n'est pas apparu.
Oh, elle est un peu consommée, là, la manifestation.
Il est consommé. Non, mais si c'était une revendication majeure, les gens ont compris que pour l'avenir des retraites, il fallait parfois un peu réformer.
Un sur trois, quand même, entre 18 et 24 ans. C'était des sujets. Alors, moi, je suis évidemment pas concerné par les 18-24 ans.
Alors, il y a
À partir de 25 ans, c'est le niveau normal. C'est environ un sur deux qui met de l'argent de côté.
Il y a aussi le climat. C'est vrai que les jeunes sont, en revanche, un peu moins sensibles aux questions géopolitiques. Parce qu'au fond, ils ne les ont pas connus. Ce sont des sujets qui ne les ont pas affectés directement.
En ce moment, une partie de la jeunesse s'intéresse beaucoup à certains sujets.
C'est très
Gaza
focalisé.
Sur Gaza,
c'est Gaza. Honnêtement, la géopolitique, c'est Taïwan, c'est l'Ukraine, c'est l'Iran. C'est...
Il y a un cas, il y a une posture un peu idéologique sur l'histoire de Gaza, mais
absolument.
Effectivement, Taïwan, c'est un énorme sujet dont on ne parle pas pour l'instant, et j'espère qu'on n'en parlera pas d'ailleurs. L'attractivité, la France confirme sa première place en Europe pour la 5e année consécutive. Alors, je précise, le baromètre EY porte sur le nombre de projets d'investissement direct étranger, 1194, presque 1200. Mais on est leader sur le nombre de projets, même s'il recule, c'est vrai, un peu par rapport à 2022. Seulement, on n'est pas du tout leader sur les nouveaux projets. L'essentiel, hein, 2 projets sur 3, ce sont des extensions d'activités qui existent déjà. Et on n'est pas non plus du tout leader sur les créations d'emplois liées à ces investissements directs étrangers. Puisque là, clairement, eh bien, on est dépassé par notamment nos principaux voisins, la Grande-Bretagne. Voilà, 35 emplois en moyenne par projet en France, 49 en Allemagne, 61 en Grande-Bretagne, 300 emplois en Espagne. Gaël, une réaction par rapport à cette bonne nouvelle ? Si Jean-Marc Daniel était là, il nous dirait c'est la pire des nouvelles. Voilà. Parce que on se fait acheter par l'étranger et donc on va payer les retraites de l'étranger par la suite avec les dividendes qu'ils vont générer sur notre sol. Moi, j'ai pas la même lecture. Comment on peut d'ailleurs rapprocher ça, Gaël, et après j'arrête parce qu'il y a que moi qui cause. Mais la bonne nouvelle sur le PIB, la bonne nouvelle sur l'inflation, la bonne nouvelle sur Fitch, Moody's. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une petite hirondelle là.
Oui, en tout cas, c'est clair que le gouvernement a bien l'intention de capitaliser sur le sujet. Ça fait 5 ans quand même d'affilée que la France est en tête de ce classement. Faut se souvenir quand même, même si le classement en nombre de projets est limité. Que vous l'avez bien dit, à ce sujet sur le nombre d'emplois, les projets nouveaux, c'est pas toujours si structurant que ça. Mais enfin, c'est quand même un indicateur. Il faut se souvenir que il y a encore 10 ans, la France était le pays qui était conspué pour les 35 heures, les grèves, la fiscalité étouffante, etc.
L'instabilité fiscale.
Voilà.
Aussi.
Et là, ce qui est quand même intéressant de regarder, c'est que les 3/4 des dirigeants étrangers qui sont interrogés disent qu'ils pensent que la compétitivité de la France, l'attractivité de la France va continuer de s'améliorer. Bon,
j'ai vu, ouais. Pour les années qui viennent.
Voilà, il y a près de la moitié des projets qui sont industriels, ce qui quand même correspond aussi au souhait de réindustrialisation du pays. Et il y a 17 projets dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc là, le côté vert à moitié plein, c'est celui-là. Je laisse à Philippe Trénard le vert à moitié vide.
Je vais faire réagir Gaël. Mais effectivement, oui, puis parmi les éléments, les atouts nouveaux qui sont mis en avant, il y a l'énergie décarbonée. Et ça, c'est quelque chose qui compte maintenant énormément. Parmi les faiblesses nouvelles qui sont mises en avant, alors pas dans le baromètre EY, mais tout récemment dans une autre enquête, l'insécurité, la sûreté des personnes.
Et il faut aussi noter quand même le contexte plus global. L'Europe décroche quand même par rapport aux États-Unis. Ça, on le voit très clairement, et notamment à cause du redoutable IRA, là, les subventions de 370 milliards de dollars.
Au prix d'un déficit de dingue.
Voilà, qui arrosent les projets d'industrie verte et sur le sol américain. Donc ça, quand même, ça a un effet.
On va en reparler, mais dans ce creusement entre l'Europe et les États-Unis, je suis désolé, mais l'histoire de Total qui préfère Wall Street à la Bourse de Paris, ça a du sens. Gaël, vous vouliez réagir à ce qu'on disait à propos, je sais pas, peut-être des bonnes nouvelles ou simplement de l'attractivité.
À propos de deux choses, à propos des bonnes nouvelles, et moi, de mon poste de vigie sur l'opinion publique...
Nouvelle, 0,2 de croissance, c'est pas non plus le Pérou, mais c'est une bonne nouvelle.
Au-delà de ça, sur l'opinion publique en France, et les conséquences de ces bonnes nouvelles, il faut savoir que les Français étaient très inquiets d'une dégradation de la note, alors... Tout n'est pas encore terminé.
Ils étaient vraiment très inquiets.
Oui, ils étaient très inquiets. On avait fait un sondage pour le Figaro il y a de ça une dizaine de jours où ils disaient que ça aurait des conséquences. Pensaient-ils ? Alors, c'est pas ce qu'on avait observé il y a 12 ans quand c'était arrivé, mais eux étaient persuadés que ça aurait des conséquences pour le pays et des conséquences pour eux-mêmes qui seraient très fâcheuses. Toutes ces bonnes nouvelles, si elles arrivent à capillariser, à imprimer dans l'opinion publique, peuvent réactiver un mantra qui s'est perdu pour Emmanuel Macron, celui du Mozart de l'économie. C'est quand même ni plus ni moins sur cette idée que, pour piloter l'économie, ils étaient collectivement, l'équipe actuelle, plus compétents que le Rassemblement National. C'est sur cette idée-là qu'il a remporté la présidentielle de 2022 et celle de 2017. Et aujourd'hui, les Français, dans nos enquêtes, pensent que le Rassemblement National serait plutôt moins mauvais qu'eux en matière économique. Donc, arriver à retourner la tendance, c'est peut-être une clé pour éviter de se retrouver dans quelques années avec Marine Le Pen, présidente de la République, parce que sinon, c'est vraiment ce qui nous pend au nez aujourd'hui.
Alors, moi, on a toujours dit qu'une dégradation des notes n'aurait probablement pas d'effet dans les mois.
Non, ça n'en a pas eu il y a 12 ans.
Suis moins optimiste que l'opinion que vous citez sur la capacité de l'actuel exécutif et d'Emmanuel Macron à redonner une sorte de lumière économique. Globalement, il faut faire 20 milliards d'euros d'économie.
Ah non, mais l'opinion.
2027, je ne vois pas comment
Nicolas,
tu peux...
L'opinion publique n'est pas rassurée là-dessus. Je vous dis que justement, quand on les interroge sur qui est le meilleur en matière économique pour piloter le pays, aujourd'hui ils nous disent tout le monde est mauvais. le RN, le PS, le... et ils pensent que le Rassemblement National serait moins mauvais que l'équipe actuelle en matière de fiscalité, en matière économique, en matière sur tous les sujets sur lesquels ils avaient une avance. Donc ça a un enjeu important que les Français puissent entendre ces bonnes nouvelles. Notre morale économique s'améliore de 3 points. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas, ce n'est pas inintéressant non plus.
Philippe Trainard sur l'attractivité, 1194 projets. On ne parle pas de montants, de milliards. Hein. On parle de nombre de projets, projets neufs ou projets déjà existants, et des créations d'emplois qui vont avec. Moi, j'ai envie de dire bonne nouvelle.
Oui, oui, non, il ne faut pas, et je crois que Gaël a très clairement dit, ce sont des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut aussi, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Gaël, que je partage totalement, mais il faut néanmoins poser quelques limites. Alors là, il faut revenir à quelques chiffres, désolé, en milliards. Le vrai sujet de l'investissement, investissements étrangers en France, c'est qu'on ne peut pas les compter seuls. Il y a les investissements étrangers en France et les investissements français à l'étranger. Notre vrai problème, historiquement, a été que nous avons eu une balance des investissements redoutablement déficitaire, entre 25 et 50 milliards.
Là, vous parlez de la balance des paiements courants,
c'est ça ? Des investissements. C'est-à-dire qu'on investissait, nous, beaucoup plus à l'étranger. C'est-à-dire, le Français ne voulait pas investir en France, il ne voyait pas d'avenir à la France.
Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais de cela.
Hein. Étrangers investissaient en France tout simplement parce qu'ils n'étaient pas soumis à l'ISF, ils n'étaient pas, etc., etc. Ce déficit n'a pas disparu. Ça, c'est la pas bonne nouvelle, mais il a fortement diminué, puisqu'on est parti d'une moyenne entre 25 et 50 milliards, on est aujourd'hui plutôt à 11 milliards, et ça n'a pas tendance à augmenter. Ça, c'est au fond la réussite de Macron, n'est-ce pas ? La disparition de l'ISF a fait quelque chose, quand
Philippe,
même.
Le CICE, c'est 2014. Hein. Ça commence là, la politique de l'offre. Et c'est poursuivi par Emmanuel Macron.
2014, c'est pas là que commence l'amélioration des investissements directs. C'est vraiment la date.
Oui.
C'est vraiment la disparition de l'ISF. On voit qu'il y a...
Réforme fiscale 2017, voilà. C'est un peu la bascule.
Voilà, bon, c'est la bascule. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. Je pense aussi les lois El Khomri et les lois sur le marché du travail.
El Khomri sous François Hollande, voilà, Pénicaud sous Emmanuel Macron.
Parce qu'on... Bon, croyez peut-être moins d'emplois. La France n'est pas le pays le plus attractif pour l'emploi, mais néanmoins, par rapport au passé, c'est beaucoup plus. Donc, ce sont ça les bonnes nouvelles, je crois, qu'il faut engranger. Et alors, ce que dit Ernst & Young, c'est quand même attention à l'instabilité fiscale. C'est vrai que je trouve que tous les députés...
Ça s'est beaucoup amélioré, quand même.
Oui, à part que vous avez à peu près tous les jours... Quand vous écoutez la radio, vous ouvrez votre journal, un député de la majorité qui dit qu'il faut restaurer la taxe sur le capital,
qui a toujours bien une évidemment, bonne idée fiscale.
Qui sera catastrophique de ce point de vue-là.
Mais bon, il y a une remarquable stabilité fiscale sur une niche qui est très importante pour les investissements étrangers, c'est le crédit impôt recherche.
Oui, absolument.
Qui est une niche massive quand même, et qui est là, qui a toujours été défendue continuellement depuis plus d'une décennie maintenant. Et effectivement, ça se traduit quand on voit les investissements étrangers. On voit quand même que c'est notamment dans le domaine de la R&D, ça a créé quand même une sorte de...
On prend un pari, Gaël.
D'émulation autour de la recherche et développement.
Le CIR ne sort pas indemne de la loi 2025.
Nombre de députés, on a le même problème au fond, au lieu des députés.
C'est
ce qui nous a permis d'obtenir d'engranger des investissements dans des secteurs de pointe. Ils sont en train de dire quand est-ce qu'on le supprime.
Non, pas supprimer, mais...
Non, les députés. Il y a quand même un peu là une absence de responsabilité.
J'ai quand même jamais entendu personne dire on le supprime, mais même Philippe Aguillon, qui n'est pas un odieux gauchiste, considère qu'il y a des effets d'aubaine énormes.
Philippe Aguillon est favorable.
Il est favorable à tout à l'étage.
Il voit qu'empiriquement, ça a joué un rôle hyper important.
Oui, mais Philippe vous explique que quand même, c'est vrai, il y a des effets d'aubaine assez importants et qu'il y a quand même des aménagements.
Et même la Cour des comptes est revenue plusieurs fois là-dessus.
Savez-vous dessiner d'ailleurs...
Attendez, pas ensemble parce que... Pardon.
Allez-y. Non, mais il y aurait matière à aménager. La Cour des comptes a été revenue plusieurs fois pour montrer quand même qu'il y avait des effets d'aubaine assez importants.
Il faut faire attention aussi dans la chasse des effets d'aubaine. Il n'existe pas de mesure. Dès que l'État veut intervenir, vous avez... des effets d'aubaine.
Je suis d'accord.
Pour avoir été travaillé 20 ans dans ma vie sur ces sujets, je n'ai jamais réussi à avoir une seule mesure qui n'ait pas d'effet d'aubaine.
Oui, mais quand tu as 1 euro sur 10 d'effet d'aubaine ou 6 euros sur 10 d'effet
sûr.
D'aubaine,
oui,
voilà.
Non, absolument.
Il y a une question. Parce que là, on n'a jamais cherché.
Il faut les minimiser.
On n'a jamais cherché des milliards. On n'a jamais été autant mort de faim. C'est pour ça que je pense que le CIR, il risque de morfler un peu.
Dans ça le a PLF. Été une très bonne mesure et une façon baissée, intelligente, de baisser l'impôt sur les sociétés.
Bien sûr. Et puis, autre pari que je prends, je pense que les milliards de l'apprentissage aussi, on va...
Voilà.
Il va y avoir des trucs. Avant de parler du baromètre Odoxa, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous êtes peiné que Total Energy veuille quitter la Bourse de Paris pour préférer Wall Street? On comprend très bien. Je vous redonne les chiffres. En 10 ans, le poids des US, enfin des actionnaires américains, passe de 30 à 40%. Le poids des Européens passe de 51 à 44%. Et puis en plus, on vient de durcir le label ISR, ce qui fait que Total Energy n'est plus éligible au label ISR. Bon. Il n'est pas aimé ici, il est aimé là-bas. Et puis en plus, le Total bashing est un sport national, il va là où il est aimé. Mais Bruno Le Maire dit ce matin sur BFM TV, je souhaite que ça n'ait pas lieu. Philippe, vous êtes...
Écoutez, je crois que, comme vous l'avez dit, Nicolas, il faut à ce moment-là un peu aménager les conditions.
On parle d'attractivité, et voilà que Total est en train de faire un signal fort.
Et deuxièmement, Total part parce qu'on voit tout d'un coup l'Europe se mettre à multiplier les réglementations sur les entreprises, particulièrement une entreprise comme Total. Et il y a peut-être un moment donné, et il faudrait plutôt se poser la question, comment on assure à Total les conditions d'une transition réussie? Alors, si on l'assure en disant, vous pouvez plus, si vous êtes un fonds ISR, vous pouvez plus investir dans Total, si, vous pouvez pas investir et on va vous pénaliser, ben, il est certain que la transition de Total ne se produira pas, ou pour se produire, il faudra qu'ils aillent aux États-Unis. Il y a d'autres réglementations, mais qui touchent un peu moins, pour moi, Total, sur les données personnelles, etc., qui aboutissent exactement au même résultat. Si vous voulez faire de l'innovation dans les données personnelles, y compris la sécurité des données personnelles, mon conseil, aller aux États-Unis, surtout ne restez pas en Europe. C'est horrible à dire.
Il y a un parfum harakiri dans tout ce qu'on raconte régulièrement. Gaël, par rapport à Total, enfin Gaël, eux et Gaël, si vous avez des choses à ajouter. Mais...
Oui, alors bon, pour ce qui est de Total Energy, oui, il y a effectivement une logique pour les pétroliers européens, parce qu'il n'y a pas que Total Energy qui y songe, Shell aussi y songe, à aller aux États-Unis. On voit qu'une entreprise américaine pétrolière comme Chevron, par exemple, qui fait plus ou moins les mêmes bénéfices que Total et valoriser 1,7 fois ce qu'est valorisé Total Energy.
14 fois les bénéfices contre 8 fois pour
voilà.
Total.
Voilà. Donc clairement, il y a aussi des questions techniques. Par exemple, quand on est coté à Wall Street, on peut rentrer dans les indices sectoriels américains qui sont puissants. Voilà. Bon. Après, pour ce qui est de la question de l'innovation, je trouve Total Energy, effectivement, est finalement le pétrolier qui investit le plus dans les énergies renouvelables.
5 milliards par an.
Voilà, 30% de ses investissements. C'est reconnu partout, mais sauf en France. Voilà, c'est pas faux. En même temps, aux États-Unis, à l'inverse, il se développe quand même une sorte d'idéologie pro-pétrole, anti-énergie renouvelable, qui prospère en ce moment et qui effectivement participe à la valorisation des compagnies pétrolières, mais qui est en même temps à courte vue, parce que même au-delà de la question de la transition énergétique, je veux dire, les compagnies pétrolières doivent réfléchir à leur avenir, et du pétrole, il n'y en aura pas pour les 200 ans à venir. Donc, je pense que il y a quand même, c'est pas inutile d'avoir une sorte de réglementation qui pousse à l'innovation hors du pétrole. Voilà.
Gaël, Slimane, sur
chacun dans son rôle. Pour toutes les raisons que vous avez évoquées, plus vous évoquez régulièrement, c'est important de le dire, le Total bashing. Qui a lieu d'ailleurs davantage dans les médias que dans l'opinion, puisque Total n'est pas nécessairement une entreprise hyper populaire, mais quand on teste l'image de l'entreprise, alors à chaque fois qu'il y a une polémique, une catastrophe, un procès, un Erika, quelque chose comme ça, on voit l'image de Total qui s'effondre aux yeux du grand public français. Mais on avait dans notre baromètre économique ensemble avec Challenge et BFM testé l'image des grandes entreprises françaises récemment, et on est au-dessus de la moyenne, on est sur plus de 50% de bonnes opinions à l'égard de Total auprès des Français, malgré
Les ristournes sur le carburant pendant...
Alors, ça, qui ont joué, bien sûr. Et puis on s'éloigne des polémiques. Donc, du point de vue de Total, vouloir un peu sortir du bashing, profiter de ces opportunités business, ne pas risquer un jour que les politiques se servent du Total bashing ambiant pour prendre des mesures, des taxes sur les super profits dont Total serait victime, on comprend très bien. Mais pour le coup, le ministre de l'économie est tout à fait dans son rôle, parce que malgré la pression d'une certaine partie de l'opinion publique jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mesures de ce type qui ont été prises par ce gouvernement et qui auraient affecté Total. Il y a une légitime envie, je pense, du ministre de l'économie de conserver français, entre guillemets,
une des stars.
Donc c'est logique et ce serait quand même étonnant que Total finisse par le faire.
Il y a un enjeu pour l'attractivité financière de la place de Paris quand même, parce que c'est un poids lourd du CAC 40.
9% du CAC, voilà, 167 milliards de valo.
Et on entend quand même aussi dans le propos de Patrick Pouyanné une sorte de « retenez-moi ou je fais un malheur ». Au moment où la discussion notamment sur la taxation des rachats d'actions, dont Total est un grand utilisateur.
Numéro 1 en France.
Voilà.
Et 9 milliards sur les 33 milliards de rachats d'actions en 2023.
Exactement.
C'est Total tout
seul.
Parce que les investisseurs étrangers...
Donc Total Energy est en première ligne si une taxation sur les rachats d'actions a lieu, ce qui est un peu dans la grande inventivité dont on fait preuve sur les taxes, c'est un peu la taxe du moment là, à laquelle on réfléchit en ce moment. Et donc, je pense que ce n'est pas innocent si le propos de Patrick Pouyanné intervient maintenant.
Ouais, clairement. Alors, ce que disait Gaël est très 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 vrai, et je l'ai constaté lors des derniers résultats extraordinaires, c'était 20 milliards d'euros pratiquement, ou 19,7. Les journalistes adorent s'exciter sur le Total bashing, l'opinion beaucoup beaucoup moins, et ils sont un peu tombés. Enfin, il y en a pas mal qui sont un peu tombés dans le panneau, et c'est vrai que notamment sur RMC, ils faisaient réagir les gens, et les gens n'étaient pas du tout scandalisés par les profits de Total. Et puis ils vont apprendre à aimer Total parce que le litre là commence à tutoyer les 2 euros. Ils ont capé à 1,99. Vous allez voir les files d'attente chez Total.
C'est ce que disait Gaël, effectivement. Il y a une majorité de Français qui a une bonne opinion de cette marque aujourd'hui.
Ils se souviennent de ça.
Bon, on va marquer une pause. Si vous voulez, on produit encore un mot de tout ça, pourquoi pas. Notamment, je ne sais pas, peut-être sur les rachats d'actions. C'est vrai que, oui, c'est un peu la taxe du moment. Hein.
Oui, mais c'est une erreur, parce que pour la plupart des investisseurs internationaux, le rachat d'actions est le moyen de ne pas réinvestir directement dans l'entreprise, de reprendre leur bille et de redistribuer leur capital. Donc, il faut, dès le moment où vous piégez des actions dans une entreprise, il ne faut plus investir dans cette entreprise. Donc, vous asséchez le capital de l'entreprise. Il n'y a pas de meilleur moyen.
Mais on est très, très doué en France pour faire des trucs comme ça.
Oui, alors oui,
mais ça découle. Bon, on marque une pause. On dira peut-être un mot, parce que moi, ça m'intéresse, les rachats d'actions. Et puis, on va ouvrir ensemble le baromètre Odoxa AGP Challenge BFM Business. Oui. Pendant la pub, demandez-vous bien. Intuitivement, vous la mettez où, l'inflation? Allez, à tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gaëlle Mac, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une de Challenge, dossier spécial avec l'histoire, les grands escrocs. Comment ils ont exploité le capitalisme, le dernier en date, c'est sans doute Bankman pour FTX dans les cryptos. Puis on parle aussi de Ponzi ou de Madoff. Gaël Sliman, président d'Odoxa, Philippe Trénard, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. On revient juste, on est allé très 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 vite parce que la petite musique de fin de demi-heure tournait. Les rachats d'actions, volonté effectivement, probablement de taxer les rachats d'actions en 2025. Et vous dites que ça n'est pas une bonne idée.
Non.
Réexpliquer la raison pour laquelle, parce que je vais vous dire, voilà, perception, je ne sais pas si Gaël a déjà traité ça auprès de l'opinion, un rachat d'actions pour ou contre, les gens vont être contre. Ah oui, c'est une manière d'enrichir l'actionnaire sans lui donner du cash directement, mais si on a de l'argent, c'est pour investir, c'est pas pour acheter ses propres actions. Et très probablement, la perception sera négative. Je ne sais pas si vous avez
des éléments. Très probablement.
Voilà. Ce sera à peu près ce que je dis, je pense. Et vous nous dites, non, il ne faut pas tout s'amuser à ça.
Non, il ne faut pas
s'amuser.
Alors,
dites-moi pourquoi.
D'abord, les rachats d'actions, c'est d'abord des rachats d'actions au bénéfice d'entreprises. Ce n'est pas au bénéfice d'individus immédiatement.
Oui, les montants maintenant sont quand même devenus énormes.
C'est quand même en majorité.
Oui, mais les montants sont devenus énormes, Philippe.
Oui, et les montants sont énormes. Mais d'un autre côté, si vous dites...
Au bénéfice quand même un peu des actionnaires, parce que c'est une révolution.
Je n'ai pas dit que c'était à 100% pour les entreprises. Je dis que c'est largement pour les entreprises, pour plus de la moitié, quand on doit la comptabilité nationale. Le deuxième point, c'est que si vous piégez l'investisseur, ce qu'il aime bien, c'est pouvoir choisir. Et puis quand une entreprise va mal, il désinvestit pour aller vers le secteur qui va bien. Il faut que ça marche. Parce que si vous n'avez pas ce mouvement-là, eh ben, le secteur porteur, nouveau, qui vient concurrencer le vieux secteur, il ne peut pas se développer. Et donc, vous n'avez pas de productivité, vous avez impossibilité d'investissement dans la productivité.
Je ne vois pas trop le lien avec le rachat d'actions dans ce que vous expliquez.
Si, avec le rachat d'actions. Une des façons de sortir votre capital d'une entreprise, c'est le rachat d'actions. Parce qu'on vous paye, on vous rachète des actions, donc vous vous retrouvez avec de la liquidité. Et cette liquidité, éventuellement, le signal que donne l'entreprise, c'est il y a des montants, je n'ai pas d'investissement, n'est-ce pas, jusqu'à cette hauteur, allez l'investir ailleurs. Maintenant, si vous dites,
Philippe, vous me le présentez comme si celui qui rachète ses propres actions faisait une espèce de don à la collectivité pour développer d'autres secteurs d'activité, parce que lui n'a pas utilité avec...
Voilà, mais c'est pour lui la garantie qu'il pourra avoir du capital quand il en aura besoin.
Oui,
parce que si je les piège dans une entreprise, mettons
dans chez Total... Ils ne sont pas piégés, ils peuvent toujours vendre leurs actions.
Non, mais ils sont, s'ils sont piégés, ils ne peuvent pas réallouer leur capital,
c'est catastrophique.
C'est comme si vous étiez piégé avec un salarié qui ne travaille pas. Ah ben, vous devez le payer tous les mois, vous devez, etc. Donc, si vous voulez que l'investisseur est rationnel, il ne va pas aller vers une entreprise où son capital reste d'être piégé et où la sortie va être difficile.
D'accord. Ça, c'est... Le mot piège, je
sais pas, Miguel. C'est piégé.
Non, ils peuvent vendre leurs actions.
Oui.
Licencier un salarié, c'est un processus compliqué et long, puisque vous faisiez une comparaison avec un salarié. Vendre une action, c'est du jour au lendemain. Donc, ils sont pas piégés. Ils peuvent toujours partir si ça leur plaît cette entreprise.
Mais à ce moment-là, pourquoi vous rachetez pas les actions? Quel est le problème que vous pose le rachat d'actions?
Dans le rachat d'actions,
c'est un transfert que vous faites. Il est taxé dans la plupart des pays de façon équivalente aux autres. Alors, pas dans
Les Américains ont mis une toute petite taxe symbolique début 2023 sur les rachats d'actions, mais on n'est pas du tout sur des niveaux de taxation.
Non, c'est les États-Unis qui sont le plus à l'écart de l'équilibre.
Ça
a donné une flexibilité aux États-Unis qui est énorme dans la redistribution du capital.
J'entends ce que vous dites. Votre explication est un peu complexe, je ne le cache pas. On est à 1100 milliards de dollars de rachat d'actions dans le monde en 2023.
Mais la redistribution du capital est à ce niveau-là.
Je reviens plus globalement sur cette question du rachat d'actions versus que faire de cet argent. Je suis un peu surprise, j'avoue, que des entreprises qui sont dans des mutations industrielles majeures, je pense à Total Energy ou je pense à Stellantis, qui sont quand même confrontées à une évolution de leur métier, et etc., disent tranquillement que finalement elles n'ont pas utilité de leur argent pour leurs investissements, qu'elles investissent suffisamment et qu'elles n'ont pas besoin d'investir plus et qu'elles donc elles doivent rendre cet argent à leurs actionnaires. Il me semble qu'il y a quand même des défis majeurs, mais pas seulement d'investissement dans les chaînes de production, mais aussi dans la reconversion des employés, dans la formation. On a décidé de retarder l'âge de départ à la retraite. On a un sujet d'emploi des seniors, donc il faut les garder dans l'entreprise, ça coûte de l'argent, il faut réfléchir, et donc j'avoue que je suis un peu surprise de voir que certaines entreprises qui ne sont pas des sociétés de rente, mais qui sont quand même des sociétés industrielles qui ont des défis à venir devant elles importants, nous disent qu'elles n'ont rien de mieux à faire finalement, qu'avec cet argent, elles n'ont rien de mieux à faire qu'à le rendre aux actionnaires, parce qu'elles n'en ont pas l'utilité. Et je fais une petite remarque aussi un petit peu insidieuse. Je veux dire, il y a quand même un lien entre la performance boursière des titres et donc les rachats d'actions, généralement, dopent un petit peu le cours de bourse.
C'est sûr que ça dope le cours
et les rémunérations des dirigeants, qui sont généralement, dont les bonus sont calculés aussi en regard de la performance boursière. Donc je pense qu'il y a quand même, que c'est pas complètement désintéressé, et leur augmentation fulgurante, parce qu'ils ont quand même, ces rachats d'actions ont énormément augmenté sur la dernière décennie, on s'étonne que ça veuille dire que précédemment, on avait plus besoin de cet argent pour investir il y a 10 ans, et que maintenant on en a moins besoin. Voilà. Et d'ailleurs, je remarque que dans la communauté des chefs d'entreprise et dans la communauté du business, il n'y a pas que quelques députés insoumis qui ont quelque chose à dire sur le sujet.
Lionel m'écrit « Bravo madame, je suis d'accord à 100% avec vous sur les rachats d'actions ». Alors, j'ai rencontré, je ne donnerai aucun nom, mais il m'est arrivé quand même dans ma vie, quasiment 30 ans de journalisme économique, de côtoyer, de rencontrer des patrons de très grandes boîtes, des grands mandataires sociaux. Hors caméras et micros, ils sont nombreux à dire que à chaque fin d'année, préserver l'actionnaire dans ce qu'il a l'habitude d'avoir tous les ans, peu importe les résultats, c'est quand même une priorité. On fera tout pour que l'actionnaire soit bien traité, même si l'année a été bonne ou l'année n'a pas été bonne. Je parle de grands groupes.
Oui, essayer de stabiliser, effectivement, oui, mais, d'avoir une évolution relativement stable.
Oui, mais quand vous êtes
alors, quel est le risque pour l'actionnaire? Puisqu'on nous dit tout le temps que la rémunération de l'actionnaire récompense le risque. Mais si, en fait, bonne année ou mauvaise année, il faut toujours lui donner la même rémunération...
Pas, vous n'avez pas d'investissement rentable, parce que des besoins d'investissement, il y en a d'énormes. La majorité d'entre eux sont non rentables. Mais des besoins d'investissement rentables, vous n'en avez pas autant que ça, et pas, c'est pas garanti toutes les années. Par exemple, racheter une belle filiale, c'est pas toutes les années que vous avez une belle filiale à racheter.
Certains m'avaient d'ailleurs dit si vraiment c'est la cata, je suis prêt à m'endetter pour garder le niveau de dividende habituel. Mmh. Ou là, franchement, Bon, Gaël, regardez, il y a un sujet.
On a envie de donner une idée de stabilité, alors, qui là peut être fictive ou réelle.
Juste un dernier truc, je me souviens, parce que c'est un sujet compliqué, les rachats d'actions. Moi, je trouve des arguments dans tout ce que vous dites. Christian Parizeau nous avait expliqué un jour très très bien ici les situations précises où le rachat d'actions est quasi obligatoire. Mais c'est des situations très particulières. J'ai accordé un paquet d'actions gratuites, je vais stériliser par un rachat d'actions. Mais on est sur des cas spéciaux. Gaël, Slimane...
Pour dire qu'effectivement, par rapport à votre question du départ, c'est assez indéfendable vis-à-vis de l'opinion publique. Et à l'inverse, l'idée de taxer les rachats d'actions l'est davantage. Mais si on veut enchaîner sur le baromètre économique...
Mais on va enchaîner. Moi, je défends les dividendes, dans le principe global.
L'idée que expliquer à l'opinion publique que en fait, on va préserver l'intérêt de l'actionnaire, y compris dans des situations où la règle économique ne le prévoit pas, c'est-à-dire où les choses ne se seraient pas bien passées pour le préserver en toutes circonstances, lui expliquer que c'est pas une manière, comme le disait Gaël il y a un instant... pour les dirigeants d'obtenir des primes ou des bonus de manière déguisée, c'est quelque chose qui passerait très mal aujourd'hui dans l'opinion, je pense. Donc, la taxation, elle s'explique, et ce gouvernement qui a une image de défense des riches, de président des riches, etc., a plutôt intérêt à essayer d'envoyer des signaux, là je parle du point de vue de l'opinion publique, qu'il n'est pas que cela.
On reprendra cette discussion, parce que c'est un sujet intéressant. Et... très BFM Business, évidemment. Baromètre Doxa, AJP, challenge BFM Business du mois de mai.
Ça fait le lien. Ça fait un petit peu le lien, puisque avec challenge, on a voulu, et AJP, on a voulu creuser le sujet de l'inflation perçue. Je sais pas si on a inventé ça ou réinventé ça, mais on teste depuis pas mal d'années maintenant ensemble, avec BFM, cette idée du sentiment d'inflation.
En tout cas, comment vous l'apercevez? Voilà.
Quel est le niveau auquel vous la situez sur les 12 derniers mois? Et à chaque fois, depuis toutes les années qu'on le fait, on enregistre des chiffres qui sont complètement, alors pas décorrélés, mais qui sont bien au-delà des niveaux relevés par l'INSEE. Quand on a commencé à le faire, qu'on avait une inflation quasiment inexistante, que l'INSEE l'a située à moins de 1%, on était sur une inflation perçue à entre 3-3,5%. Et puis, on a vu 2,5%. Et puis, on a vu l'inflation monter en réel dans les données statistiques de l'INSEE. Et dans la perception, on a atteint l'année dernière et l'année d'avant 18% d'inflation perçue.
Où on était à 5-6, un truc comme ça.
On était entre 5 et 6%. Donc vous pouviez multiplier en gros entre x3 et x4. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on teste là ce mois-ci la perception de l'inflation sur les 12 derniers mois, on est à 13%. On était à 2,5 en gros pour arrondir selon l'INSEE, 13% sur les... Mais comme on l'a déjà dit maintes fois, c'est pas forcément que les gens disent n'importe quoi, c'est que ça signifie que leur perception, c'est essentiellement une perception des prix des produits les plus courants, et notamment des produits de grande consommation. Quand elle était située à 18%, l'inflation perçue, c'était à peu près l'évolution des prix dans l'alimentaire.
Ouais, on était à 14-15%.
On était à 14-15%. Et donc, ça veut dire qu'il y a bien un sentiment de baisse de baisse de la hausse, parce que on le répète tout le temps, oui. Nicolas, mais refaisons-le une dernière fois.
Quand l'inflation baisse, ça veut dire que les prix augmentent.
Quand l'inflation diminue, quand on est plus qu'à 2,5 d'inflation, bah ça veut dire que les prix énormes, qui avaient énormément augmenté, continuent d'augmenter. Ce qui est absolument insupportable pour les gens.
Mais
ça augmente
vite.
Moins vite. Voilà. Donc, cette inflation, elle est à ce niveau-là. Mais surtout, ce qui est inquiétant, même si on la situe moins haut qu'autrefois, c'est que les gens dans l'enquête nous disent qu'ils se sentent très inquiets sur l'avenir, sur l'évolution de l'inflation. Alors que là, les signaux, a priori, qu'on reçoit sont plutôt des signaux rassurants. Les gens ne sont pas du tout rassurés. Et par exemple, quand on compare à ces deux dernières années, la part des très inquiets n'a jamais été aussi élevée. On est aujourd'hui à 41% de gens qui se disent très inquiets. On était entre 32 et 37% ces deux dernières années. Ça veut dire que le pessimisme, il est encore très présent et que ça aussi, ça a des conséquences sur les comportements économiques des acteurs. Et on a le sentiment, pour finir, que l'inflation en France... Et ce qui va en advenir dans les mois et les années à venir, eh bien, elle est plus dure, elle nous frappera plus durement que nos voisins européens, c'est ce que pensent les trois quarts des Français en gros, et que notre pays résistera moins bien à l'inflation et à ses conséquences. Il y a un déficit de confiance qui se traduit à tous les niveaux et qui explique aussi le regard que portent nos concitoyens sur le gouvernement et sur le président de la République aujourd'hui.
Ça vous inspire quoi, Gaël, Mac, Philippe Trénard? 13% d'inflation en ce moment, nous disent les gens en moyenne. Le dernier chiffre, c'est 2,2 en avril là, qui a été publié. Est-ce que ça va aller moins bien? Oui, ça va aller moins bien. Ils sont pas 100%, mais pas loin.
Non, mais en fait, l'inflation est juste un espèce de... C'est un baromètre de plus de l'inquiétude des Français et un peu de leur défiance. On voit quand même pour les économistes du bonheur qui existent et qui font des statistiques depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans sur des dizaines de pays en comparé et en posant toujours la même question. Et on s'aperçoit qu'à revenu égal, à situation économique et sociale égale, un Français est environ 20% plus pessimiste que la moyenne de tous les pays. Et plus pessimiste que, je ne sais pas, des Afghans, que des...
Que des
gens qui sont quand même dans une situation globalement d'incertitude et de pauvreté et quand même nettement plus sombre. Voilà.
Pardon, Gaël, mais c'est pas du bonheur. C'est en fait qu'on est pessimiste. Juste pour
ce sujet du bonheur, mais il y avait aussi le pessimisme. Voilà.
C'est pas tout à fait pareil. C'est
ensemble.
L'Afghan ou l'Irakien, dans cet exemple-là, c'est une étude que nous avons réalisée au niveau mondial. L'Afghan ou l'Irakien, ils se disent, je suis tellement au fond, sous les bombes, que ça peut pas aller plus mal. Le Français, lui, il a toujours cette illusion, ce sentiment d'un jardin d'Éden, que serait son pays et son modèle social, et que tout ça irait à volo. Donc c'est plutôt une projection sur l'avenir pessimiste.
Oui, oui. Bon, en tout cas, il y a ces deux notions, bonheur et optimisme, sont demandées dans des sondages. Et en tout cas, on trouve ça. Et cette perception que cette espèce d'auto-dénigrement aussi, cette perception qu'on fait moins bien que les autres et qu'on décline et que c'était mieux avant, cette nostalgie très forte, elle est aussi assez spécifiquement française, parce que quand même la réalité est de dire que l'inflation en France pendant ces 2 ou 3 ans a été inférieure à celle de la zone euro.
Dieu sait si ça nous a coûté de l'argent au niveau des finances publiques.
Ça nous a coûté de l'argent et donc effectivement, comme vous le dites, Nicolas, c'est là que c'est important. C'est-à-dire que cette perception persistante qu'ont les Français oblige le gouvernement quand même parfois à ouvrir le chéquier pour essayer de contrebalancer cette perception, et ça participe de la dérive des dépenses publiques, parce que il en faut toujours plus pour faire comprendre aux Français que ce n'est pas si pire.
Deux réactions. Niap m'écrit: les rachats d'actions, ça monte le cours de bourse et donc ça permet de faciliter des acquisitions par OPE, offre publique d'échange. Bon, et puis
sûrement.
Voilà, les rachats d'actions, faut pas oublier que les 10 millions de personnes qui ont un PER sont bien contentes. Voilà, de voir la valeur en bonne.
Un petit point, l'Asie, peut-être sur l'inflation, parce qu'il y a un petit point qui peut paraître inquiétant. Derrière, on se dit, au fond, ils sont pessimistes, de retard dans les anticipations, etc. Problème de pessimisme structurel. Mais il y a autre chose. C'est qu'une des conséquences, c'est que bien évidemment, si je suis banquier central, je vois ça, je dis que je me trouve donc face à des ménages qui ont dans leur tête des taux d'inflation beaucoup plus élevés et donc des exigences et des revendications à satisfaire beaucoup plus élevées.
En termes de salaire ?
Beaucoup plus élevées. Ça veut dire qu'on est là quand même au cœur d'une potentielle résilience de l'inflation dans nos pays. Car si vraiment les gens pensent cela, ils vont devoir le traduire quelque part un petit peu dans les revendications salariales.
Et c'est pas ce qu'on voit, Philippe. Les revendications salariales, on retombe sur des niveaux qui correspondent à peu près au niveau macro.
On n'est pas encore à des niveaux qui sont cohérents.
Ils le traduisent dans l'épargne.
Ils peuvent le traduire dans la revendication salariale, c'est-à-dire maintenir des revendications salariales, certes, qui, avec les taux d'inflation qu'on a eu dans le passé, engrangent des pertes de pouvoir d'achat, oui, mais qui ne sont néanmoins incohérentes avec 2% d'objectifs d'inflation. Donc je pense que c'est quelque chose à suivre, au contraire. C'est très intéressant parce qu'on pourrait avoir une des sources de résilience ici de l'inflation.
Oui, mais si je suis banquier central, si je ne vais pas...
Ils ont d'autres...
Quand je dis je suis data dépendante et je ne suis plus forward guidance, je m'appelle Madame Lagarde à la BCE, vous voyez que dans les data, je vais inclure également l'inflation telle que les gens la voient, l'inflation telle que...
Vous regardez toutes les enquêtes sur...
Il y a les anticipations.
Les anticipations d'inflation des consommateurs, vous les avez dans l'enquête consommateur et vous les avez dans l'enquête auprès des entreprises. Oui. Les banquiers centraux le regardent de très très près.
Au mieux, on est à 2,5. On était au mieux à 2,5 d'inflation perçue en avril 2021, quand je crois de mémoire, elle était à 0,7 ou quelque chose comme ça. Donc, on peut tomber à des niveaux d'inflation perçus qui sont très faibles, même si c'est beaucoup plus que la réalité.
Il y a des facteurs structurels et probablement il y a un facteur d'amortissement entre la revendication salariale et ce qui est là. Je ne le connais pas, il faudrait faire un travail empirique un peu solide pour pouvoir le tester.
En théorie, c'est en 2024 que les hausses de salaire devraient permettre, de retrouver à des niveaux de salaire réels.
Je vous rassure, le banquier central ne dit pas que les gens ont des anticipations d'inflation de 13%. Mais il voit bien là qu'il y a une résilience, qu'il y a quelque chose qui peut jouer et dont il doit tenir compte.
Bercy prépare un arsenal antifraude pour l'automne. Alors, on connaît les principales fraudes. La fraude fiscale numéro 1, c'est la fraude à la TVA. Il y a deux grosses fraudes sociales. La fraude aux cotisations, c'est l'argent qui ne rentre pas. Et la fraude aux prestations, c'est l'argent qui sort mais qui ne devrait pas sortir. Et puis là, Thomas Cazenave, dans les colonnes des Échos, explique qu'on va ajouter de nouvelles cordes à notre arc d'arsenal antifraude pour aller chercher ceux qui grugent ma prime rénov', qui grugent le compte personnel de formation, qui vont percevoir des aides à l'apprentissage indues, ou encore des certificats d'économie d'énergie auxquels ils n'ont pas droit, que des aides publiques délivrées par des organismes qui n'ont absolument pas la culture de la fraude du fisc ou des douanes, parce qu'il s'agit de l'ANA pour la rénovation, ou encore le PNC2E, le pôle national des certificats d'économie d'énergie. C'est pas des flics anti-fraude, ces gens-là. Ça vous inspire quelque chose, pas la fraude, là ?
Oui, peut-être.
Alors, Gaël, pas trop long, parce que mais Gaël Mac, allez-y, oui.
Non, mais bon, en tout cas, il y a effectivement un très large éventail d'aides publiques et c'est vrai qu'on s'aperçoit que il y a certainement des filières même un peu de crimes organisés qui savent vraiment viser ces aides particulières. Bon, mais après ça, c'est vrai que par rapport à ce qui était mentionné, des fois on a envie de se dire mais est-ce que ce serait pas juste plus utile de mieux cibler ces aides, d'en supprimer certaines. Et en tout cas, ce sujet de la chasse à la fraude, je pense à MaPrimeRénov'. Donc il dit que Tracfin a vu 400 millions d'euros signalés.
A détecté 400 millions de fraudes.
On se dit, c'est énorme, sur 2 à 3 milliards, c'est énorme. Mais en même temps, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont déjà rempli des dossiers de MaPrimeRénov'. C'est quand même un kafkaïen. C'est super compliqué. Il y a énormément de paperasse à remplir, etc. Ça prend beaucoup de délais pour recevoir les aides et compagnie. Si en plus, derrière, il y a un round de contrôle et qu'on risque d'avoir des trop-perçus et de devoir rendre l'argent, etc. Je veux dire, cette prime va être définitivement inopérante. Donc,
De toute façon, elle est en train de...
Il y a quand même, il faut faire attention à ce que ça ne complexifie pas encore, alors que soi-disant on va vers la simplification,
hein, ben, disons, mais ça, enfin, c'est le sujet de la complexité de MaPrimeRénov et la fraude. Je sais pas si c'est le même terrain, mais
mais si, parce que au bout d'un moment, si en plus de la complexité en amont, on a en aval les contrôles et que voilà, on peut vous revenir vers vous en vous disant mais vous avez pas exactement bien rempli le bon, donc je pense qu'il faut quand même faire attention, et c'est vrai que pour certaines de ces aides, on se demande si simplement un meilleur calibrage ou les supprimer serait pas plus simple que d'aller chasser la fraude.
C'est ce qu'on est en train de se demander. Alors, l'apprentissage, c'est pas pour chasser la fraude, c'est pour que ça coûte moins cher. Par exemple, qu'on est en train de réviser une réflexion aussi pour savoir.
Non, mais il y a un effet d'aubaine. Alors, je ne sais pas si c'est de la fraude, mais il y a un effet d'aubaine clair.
L'effet d'aubaine, c'est pas de la fraude.
Oui, voilà.
L'effet d'aubaine, c'est pas de la
mais
fraude.
Mais je pense qu'il est pratiquement abusif parfois.
Allez-y, Philippe Trénard, bien sûr.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gaël. Et je pense qu'à un moment donné, on aboutit à un tel coût pour la personne, un tel coût en bien-être pour la personne, pour l'administration, qu'au fond, ça. Abandonnons ces primes qui coûtent, et ne mettons pas des contrôles. Bien évidemment, vous sauvez.
Abandonnons ou cessons de contrôler, parce que
non, abandonnons, parce que
donc MaPrimeRénov exit.
Quand vous avez un truc qui est pas soi, je pense qu'il faut abandonner l'idée, sinon ça coûte trop cher. Ce que vous donnez n'est absolument sans rapport avec le coût de la gestion. Alors, je pense qu'il y a un domaine où il faut être beaucoup plus prudent, c'est celui de l'alternance, de la formation professionnelle en alternance, de l'apprentissage. Parce que là, c'est un domaine important, très important. C'est un domaine où il y a de la fraude du côté des entreprises. Moi, je connais des acteurs au CNAM, j'avais des formations où j'avais des gens qui étaient tout simplement spécialisés à ne recruter que des alternants. C'est-à-dire, ils n'avaient que des alternants. Puis dès que l'alternant avait terminé, on le faisait partir.
Et c'est de la fraude ou de l'abus ?
Ah, c'est de l'abus. Ouais, c'est de l'abus, évident. L'abus, bon. Non, j'oserais pas les juridiquement qualifier ça. Mais seulement, c'est que vous avez l'institution d'enseignants qui y contribue. Elle essaye de surfacturer les coûts de sa formation parce que personne ne regarde, bien évidemment, le sujet puisque c'est la princesse qui paye, n'est-ce pas ? Et donc, vous avez tout le monde dans le système est en train de faire prendre au dispositif. Et là, il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux, qu'on responsabilise aussi les organismes de formation, les universités, etc., pour qu'elles n'aillent pas mettre des alternants chez les spécialistes de l'embauche d'alternants exclusivement, et qu'elles aient pratique aussi la vérité des prix.
Je veux juste dire que je ne propose pas de supprimer MaPrimeRénov. Je pense que c'est quand même important. Il y a vraiment des millions de passoires énergétiques et il y a un gros travail à faire sur les logements. Mais en tout cas, c'est déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà une aide très très complexe, et rajouter des contrôles. Donc, à un moment, faut juste mieux les concevoir plutôt que de les contrôler a posteriori.
S'il y a vraiment 400 millions de vraies fraudes sur un total de 2 milliards et demi,
écoutez, je pense qu'il faudrait...
C'est pareil, là, est-ce qu'on considère que tous ces gens qui utilisent le CPF pour passer le permis moto, c'est de la fraude ou de l'abus ou de l'effet
c'est
de l'abus.
C'est une forme d'abus.
Sanctionnable.
Alors, sanctionnable, j'en sais rien, mais abus sûrement.
Gaël Sliman.
Oui, parce qu'il faut préciser lequel. On est à un niveau aujourd'hui de recherche d'argent pour boucher les trous sur la dette,
je vous confirme,
qui est telle que tout ce qui n'est pas efficace, il faut s'en occuper, c'est l'évidence. Donc tout ce qui n'est pas parfaitement efficace en termes d'incitation au bon comportement, je pense à MaPrimeRénov par exemple, ça doit être chassé. Par ailleurs, du point de vue de l'opinion publique, c'est assez mécanique, ça fonctionne toujours. Expliquer que les autres en profitent, qu'il faut aller rechercher la chasse au gaspillage, la chasse aux profiteurs, c'est aussi quelque chose qui est efficace en termes d'opinion.
C'est payant.
C'est plutôt payant. Donc, je pense qu'on se dirige sur un maximum de messages politiques incitant à aller chercher les fraudeurs, que ce soit fait réellement ou pas. Mais de toute façon, ça, c'est utile de le faire.
Il y a un peu de com.
Et il y a de la com aussi.
Je rappelle que sur les grosses fraudes fiscales et sociales, on est arrivé à des montants recouvrés. Il faut regarder ce qui rentre vraiment, qui plafonne un peu. On plafonne dans les 10-11 milliards sur la fiscale et dans les 2 milliards sur la sociale tous les ans. Mais on a un problème pour recouvrer les sommes. Et ça, c'est un des éléments aussi nouveaux.
Plus
vraiment
de 15
travailler.
Milliards pour la fraude fiscale.
Détecter, mais qu'on fait rentrer, c'est 10.
Alors après,
10,
voilà, 9. C'est ça. Bon. Il y a toujours. Et ça, c'est à amélioré déjà, oui, parce qu'avant c'était la moitié, oui, maintenant c'est presque les deux tiers.
Et là où il y a un gros travail à faire, c'est sur la fraude sociale. Les URSSAF, en 2023, ont détecté 1,7 milliard de fraudes, ils ont fait rentrer 80 millions. 1,2 milliard de fraudes travail noir. Et ils ont fait vraiment rentrer 80 millions. Il y a une réaction de Christian. L'inflation perçue n'est pas la perception de l'inflation mesurée, mais la perception de l'évolution des dépenses contraintes, me dit-il. Bon, ça participe.
Pas faux du tout.
Le CPF est le salaire que l'on n'a pas. Bon, monsieur Jonathan. On a une minute 15. Je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai entendu Bruno Le Maire dire ce matin... Monsieur Farandou ne m'a pas informé qu'il avait trouvé un accord pour éviter les grèves. Le fameux accord incroyable là, qui, globalement, annihile la réforme des retraites pour la plupart des cheminots, surtout les contrôleurs. Ça vous...
Oui, alors...
Vraiment, en un mot, Gaëlle, on a 55 secondes.
Oui, non, mais c'est vrai. Alors, Bruno Le Maire feint de se fâcher face à Monsieur Farandou, mais c'est quand même...
Il dit qu'il va le convoquer.
Voilà, c'est quand même l'État qui a négocié l'accord avec les contrôleurs aériens, puisqu'ils sont fonctionnaires, voilà. Et cet accord est tout aussi généreux, au moins, que celui de la SNCF. Tellement bien, d'ailleurs, que le gouvernement ne voulait pas du tout en faire la publicité.
Oui, c'est tellement sympa qu'on n'a pas envie d'inscrire dedans.
Voilà, et qu'il a fuité dans les échos contre son plein gré. Donc,
et quand même, au moment où on demande des efforts à tout le monde, on fait des économies.
Avec une image des Jeux Olympiques qui est détestable, un sentiment qu'un certain nombre de catégories de population prennent, pour prendre une expression classique, prennent le reste de la population en otage à l'arrivée d'un événement comme les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui est absolument insupportable.
J'ai pas réussi à trouver les mots pour.
Et c'est vrai que d'un côté, il y a des primes qui peuvent s'entendre, puisque les gens renoncent à leur congé,
qu'on leur demande une mobilisation
exceptionnelle, etc. Mais là, ce qui concerne la SNCF ou les contrôleurs aériens, c'est structurel. C'est des augmentations structurelles.
Et puis, c'est la réforme des
retraites. Oui, c'est pas temporaire, c'est pas un bonus.
Souvenez-vous, Sarkozy avait dit les régimes spéciaux, c'est fini. Voici les régimes très spéciaux. Là, c'est mieux. Allez, merci, on n'a plus le temps de continuer. Gaël Mac, les grands escrocs à la une de Challenge de cette semaine. Je l'ai imprimé en noir et blanc, mais enfin bon, voilà. Gaël Sliman, les économies, on fait des économies. Gaël Sliman pour le sondage de Doxa HDP et Philippe Trédard pour le cercle des économistes. Rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.